Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Maurice Chalaillet. Une main tendue, c'est son dernier roman aux éditions de Boré. Ancien professeur devenu journaliste. Eh bien, on va le retrouver dans quelques instants. Il nous parlera de son dernier roman, Une main tendue aux éditions de Boré.
A burly wine, just a jackknife.
Voilà, bien comme promis, on va retrouver tout de suite dans cet invité du jeudi, Maurice Chalaillet. Alors, on va essayer de le retrouver parce qu'apparemment, on a un petit souci.
The sharp bites.
Eh bien, tout de suite, on va retrouver Maurice Chalaillet. Maurice, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de votre dernier roman. Tout d'abord, on va parler un peu de vous quand même avant. Alors, vous étiez prof, vous, hein, c'est ça? Vous faisiez quoi dans l'enseignement, en fait? Vous enseignez
voilà,
quoi?
Voilà, moi, j'ai été pendant 40 ans, donc, enseignant dans un centre de formation d'apprentis, où j'ai appris, donc, aux jeunes le métier de scieur et d'affûteur. Voilà,
oui,
tout simplement.
Très bien. Et puis, alors, ensuite, à la retraite, eh bien, vous êtes lancé dans le journalisme et puis vous êtes mis à écrire des romans.
Voilà, alors bon, j'ai pas attendu la retraite pour,
oui,
pour faire ça. Donc du coup, non, j'écrivais déjà depuis les années 90 pour la presse professionnelle, en l'occurrence le Bois International qui était à Saint-Étienne, pendant 30 ans, jusqu'à son arrêt il y a juste 2 ans. Et puis ben là, je poursuis avec un autre journal parisien qui s'occupe aussi du bois et des scieries en particulier. Et puis les romans, non, les romans, ça date aussi de premier roman en 1990. Et aujourd'hui, donc, je crois que La main tendue est le 17e roman. Voilà.
Oui, oui, ça doit être à peu près ça. Hein. Alors bon, c'est vrai que nous, on est dans un pays du bois. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux au niveau du pays du bois.
Oui.
Surtout que Craponne est devenu pratiquement une capitale du bois parce qu'alors, on a des grandes scieries, on a des gars qui fabriquent des granulés. Donc, on est dans le pays du bois. Et oui, vous avez fait pas mal de romans, j'ai vu tout ça. Et vous résidez où maintenant?
Alors, je suis depuis plus de 40 ans, donc dans le Beaujolais, à La Mure-sur-Azergue, au pays des Douglas, ici.
Hein. D'accord. Alors, on va parler de ce roman, Une main tendue. Donc, on va se resituer après la guerre de 14-18, hein, puisque on va débuter en 1921. Donc, Louis Auriol, qui va revenir chez lui après la fin de la guerre, 3 ans après la fin de la guerre, il revient dans son village natal. La gueule cassée, oui, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, hein, parce qu'il y en a pas mal qui ont été défigurés, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, il faut savoir que c'est de là qu'est née, je dirais, un peu la FDJ, la Française des Jeux. Hein, parce que c'est parti de là, c'est marrant les choses, hein, mais enfin, c'est marrant, non, pas trop, mais comme quoi. Alors là, il avait une scierie, justement. Et il pensait se retrouver au sein de sa scierie, mais pendant le temps de cette guerre, eh ben, sa belle-sœur l'a vendue. Et alors là, ça ne lui a pas franchement plu. Hein. Et il se dit comment exorciser ses traumatismes et reprendre goût à la vie. Et c'est là qu'on va parler de la main tendue. Qu'est-ce qui a été l'idée? Parce que je pense que cette histoire, ça a dû arriver à pas mal après la guerre de 14-18, non?
Oui, alors bon, là, ici, sur ce cas précis, je suis parti d'un récit de vie qui m'a été raconté. Et donc, on va dire que l'histoire est authentique. Et en fait, une belle-sœur qui vend cette scierie, en fait, en toute légalité, puisque son propre mari, donc, est mort à la guerre, hein, donc le frère de celui qui revient. Et voilà, donc, elle a voulu tirer un revenu de cette entreprise, mais voilà, c'était sans compter que le frère qui allait revenir, donc lui, c'était sa vie, cette scierie, quoi, finalement, il a toujours travaillé dedans, et ça va être un véritable choc à son retour d'apprendre que la scierie n'est plus dans les mains de la famille, et on va pas trop déflorer l'histoire, mais ce choc aurait pu le conduire au drame, hein, puisque le roman commence comme ça, par une poursuite dans le village à coups de pistolet, et ça aurait pu être un véritable drame si la première tendue, parce qu'on va voir que dans le roman, finalement, il y en a quand même plusieurs, si la première tendue, en l'occurrence, le maréchal Ferrand du village, son copain d'enfance, ne l'arrêtait pas brusquement dans sa course pour lui éviter le pire. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'on va beaucoup parler de main tendue, parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein, il n'y a pas eu. Alors, l'histoire, quand même, est-ce que ça serait arrivé maintenant dans nos années comme ça? Quelqu'un qui revient au bout d'un moment, non. Parce qu'en général, quand on vend quelque chose, il faut que tous les descendants soient au courant, tandis que là, elle a pu vendre sans problème.
Elle a pu vendre, oui, mais en sachant que bon, l'arrangement avait été fait, hein, donc du coup, comme ça s'est beaucoup passé, que ça se passe encore dans le monde rural, deux frères, le père avait arrangé pour faire en sorte que un hériterait donc de la scierie et de la maison d'habitation, et puis l'autre de parcelles de bois dans le fameux grand bois. Donc, on va dire que ça a pu être fait en toute légalité, hein, dans ce sens-là. Mais c'est surtout la partie, on va dire, sentimentale. Le frangin, bon, les parcelles de bois, oui, d'accord. Mais à cette époque-là, lui, il n'y voit pas une valeur fondamentale. Sa valeur à lui, c'est de retrouver le contact avec la scierie, avec le sciage, parce que c'est un expert du sciage, et c'est toute sa vie. Et ça, vraiment, c'est un, comme j'ai dit au début, c'est un gros choc, quoi.
Oui, alors, oui, justement, parce que cette scierie va bien fonctionner, mais pourquoi, en fait, sa belle-sœur, elle ne le reprend pas dans l'affaire, en fait?
Eh bien, pourquoi elle ne le reprend pas? Parce que c'est quelqu'un qui est attirée par l'argent, et puis elle ne s'entendait pas déjà avant le départ à la guerre en 14 avec ce beau-frère, et elle ne se voit pas travailler avec lui, et pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que celui qui revient intrinsèquement ne se voit pas travailler, ne soyez pas non plus travailler avec sa belle-sœur. C'est le chien et le chat, et donc du coup C'était impensable.
Oui, il y a deux mondes opposés. En fait, la belle-sœur, elle ne voit que l'argent, hein, bien sûr.
Tout à fait.
Et lui, il est dans cette. Ben, il a toujours vécu dans cette scierie, quoi. Il y est né dedans, il a travaillé
bien
avec
sûr.
Son père. Et c'est la guerre qui a tout foutu en l'air, hein, on peut dire ça
tout
comme
à
ça.
Fait.
Et bon, alors, il va y avoir quand même, puisque vous appelez ça la main tendue, des gens du village qui vont l'aider pour essayer, on verra ça à la fin du roman, hein, mais essayer de retrouver peut-être une place dans cette scierie ou toute autre chose, mais il va avoir besoin de beaucoup de monde, quoi, pour résister.
Oui, c'est ça, donc, parce que ce type, comparativement à, on va dire, aux mentalités d'aujourd'hui, ce type, c'est quelqu'un de droit, quoi, qui est finalement sans histoire, et lui, sa philosophie de vie, c'est la scierie, c'est aussi le contact avec la nature. D'ailleurs, cette nature qu'il va retrouver, alors bon, disons-le, hein, c'est le Pila, ça se passe dans le Pila, qui va retrouver petit à petit. Si on peut dire que c'est pas une main tendue, la nature, mais presque. Et elle va lui tendre la main, il va y aller, et il va redécouvrir quand même ce haut pays qui est quand même qui va lui rappeler beaucoup de choses, et ça va être son premier, si on peut dire, retour à la vie avant que quelque chose se construise. On déflorera pas l'histoire, mais quelque chose qui se construise toujours autour de la Syrie, hein, grâce, comme vous l'avez dit, à une main tendue qui va être fondamentale dans tout son parcours de vie par la suite.
Oui, bien sûr. Puis en situant l'action dans le Pila, c'est vrai qu'aussi, connaissant le Pila, c'est énormément boisé. Hein, donc,
bien sûr.
Et lui, alors oui, puis on sait, Bon, on le sait, hein, parce qu'on rencontre des anciens à l'époque dans les zones rurales. D'ailleurs, tout le monde plantait pour la génération après, hein, parce que faut le temps que ça pousse quand même. Hein. Mais on tombe amoureux. Enfin, moi, j'ai des copains qui sont comme ça, qui sont tombés amoureux des bois de leurs parents et puis qui continuent,
bien sûr,
comme on dit, de les jardiner. Hein, et c'est vrai que... Alors, moi, j'arrive à comprendre que Louis, là, lui, c'est... Pour comprendre, on comprend que c'est un gros choc, hein, parce que c'est sa vie, en fait. Hein. Lui, bon, l'argent, il en faut pour vivre. Mais ce qui le contrarie le plus, c'est qu'il ne peut plus faire ce qu'il adorait, quoi.
Bien sûr, oui. Et puis va se rajouter quand même aussi un problème fondamental et qui peut nous rappeler aujourd'hui ce qui doit très certainement se passer dans les pays en guerre. On pourrait parler de l'Ukraine, hein, et puis bon, malheureusement, contre peut-être leur volonté, les Russes aussi, tous ces gens qui sont blessés et qui retournent à la vie civile, c'est un véritable traumatisme, d'autant plus que lui, il porte la guerre sur sa tête, quoi. Et ça va être très très long aussi à l'accepter. Parce que le regard des autres tue la bonne volonté, tue l'envie de reprendre vie, et ça va être réellement le problème de ce gars. Et heureusement, autour de lui, les gens qui vont le soutenir, on va dire, vont lui apprendre et lui dire et redire qu'il a des valeurs extrêmement fortes et que finalement sa gueule cassée, il ne la voit plus. Et ça, c'est un sujet qui m'a tenu à cœur parce que, en marge, on va dire, du métier, hein, il y a beaucoup de rapports au métier tel qu'il se faisait dans les années 20 et que personne, pas grand monde connaît. Donc c'était l'occasion de nous rappeler la machine à vapeur, la force hydraulique, etc. Ça, c'était la vie du monde rural. Elle était basée là-dessus. Mais pour lui, il a fallu qu'il reprenne confiance par rapport à cet handicap. Parce que, disons-le, c'est un handicap qui, du coup, il faut bien le savoir aussi, et ça, le livre va nous l'apprendre, n'est absolument pas reconnu au début des années 20. Il va falloir que des gueules cassées créent des associations et la véritable reconnaissance va arriver pratiquement en 23 où il y a des choses qui vont commencer à se mettre en route. Pensez donc, d'ailleurs un de ses camarades, on va le découvrir dans le livre, est interné dans un asile à Lyon. Parce que il est pareil, c'est un traumatisé du front, et c'est les parents qui payent l'asile. C'est-à-dire que ça, personne le sait, mais après, bon, ça va se décanter quelques années plus tard, mais sur le coup, oui, c'est les familles qui doivent supporter le poids de la guerre. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, heureusement, il y a des gens qui se sont battus à l'époque enrayer ça, mais c'était une réalité. Et le livre nous apprend toutes ces petites choses-là que personne, en fait, connaît, quoi.
Oui, c'est vrai que puis cette guerre de 14-18 a été quand même très meurtrière. Et également, pour ceux qui reviennent, il y en a qui sont... C'est pour ça, les gueules cassées, qui sont défigurées. L'homme manque une jambe, il manque... Ça a été terrible, quoi. Donc, le gars qui revient comme ça. Puis surtout, alors oui, ce que vous disiez, parce qu'on est dans les années 20, je pense que quand on voit maintenant le travail dans les scieries et le travail même dans les bois, comme on coupe, à l'époque, hein, je ne pense pas me tromper, disons que c'était... Il y avait les scieurs de long, hein, c'est ça ?
Bien, oui, il y avait les scieurs de long, bien sûr, qui tournaient encore par équipe, mais il y avait déjà beaucoup de scies mécanisées, c'est-à-dire qui tournaient soit la vapeur, la machine à vapeur, force motrice vapeur, soit au bord des cours d'eau avec la force hydraulique, mais tout était manuel, quoi, on va dire. Et surtout l'abattage se pratiquait à la cognée ou au passe-partout, c'était une réalité. Et d'ailleurs, notre héros, on n'en a pas parlé, mais qui va faire un passage dans un camp, là aussi, les lecteurs vont apprendre l'importance de tout un corps expéditionnaire canadien forestier, qui va venir en France. Ce sont des milliers d'hommes qui vont s'implanter dans les massifs forestiers, dans les Landes, en Bretagne, dans le Jura, pour scier du bois. Ils viennent avec leur matériel, leur scie mécanique, donc ils sont très très modernes, et ils vont venir aussi avec le fameux passe-partout américain, donc dès 17, quoi, en fait, dès 1917. Et ça, ça va être une véritable découverte, parce qu'on ne le connaît pas encore, ce passe-partout, avec une denture bien particulière, qui est beaucoup plus performante que les dentures qu'on avait à l'époque. Et c'est là qu'on voit l'influence on va dire, des progrès technologiques qui peuvent se faire à l'occasion, malheureusement, d'une guerre, quoi. Et ça a été, sur ce terrain-là, ça a vraiment été vrai. Sans parler de la scie mécanique que les Canadiens avaient, qu'on ne connaissait pas du tout en France. Et on pourrait émettre l'hypothèse que, certainement, ça a déclenché des idées de modernisation pour nos scieurs français après la guerre. Puisque les Canadiens, donc, sont repartis dès 19, quoi, finalement, dès début 19, et ils ont laissé tout leur matériel qui a été revendu aux enchères. Et beaucoup de gens ont racheté ce matériel, les véhicules notamment aussi, et puis aussi tous les matériels de sillage. Et ça, tout ça est raconté dans le livre. Donc, en même temps qu'on raconte une histoire dans ce livre, on apprend, je pense, beaucoup de choses sur l'histoire, un petit peu de la transformation du bois. Et ça devrait intéresser, puisque votre région est une région de bois, ça devrait intéresser tous ceux qui veulent en savoir plus sur la transformation du bois dans ces années-là, quoi.
Oui, alors là, pour les jeunes, on va faire office de dinosaures, hein, parce que maintenant, les tronçonneuses sont arrivées dans lesquelles années à peu près?
Bah, les tronçonneuses, donc on émet l'hypothèse que c'est style qui quand même a été un peu un leader dès les années 29-30, hein, on va dire. Hein. Voilà, avec les tronçonneuses à deux hommes, notamment, dès les années, on va dire, 40. Et puis les années 50, encore les tronçonneuses à deux hommes, avec notamment la fameuse marque de tiers Rexo. Que tout le monde était équipé de ces machines-là. Et puis, la machine à un homme s'est popularisée, on va dire, notamment avec la fameuse Condra en 59, hein, qui va être vraiment, chez Steel, la machine de l'ère moderne, on va dire. Hein. La Condra, c'est quelque chose qui est un puissant vecteur de développement.
Oui, alors c'est sûr que quand on voit là, bon, finalement, c'est pas si vieux que ça, hein. Ça fait une centaine d'années, on va dire. Quand on voit l'évolution chez nous, alors, bien sûr, quand on rencontre les gens, nous, on voit passer des dizaines de grumiers tous les jours.
Oui.
Les gens, leur réflexe, c'est de dire, mais est-ce qu'ils vont laisser du bois? Alors, moi, j'ai parlé avec des gars qui exploitent des scieries. Alors, bien sûr, avec tout le modernisme, maintenant, on est comme dans des avions. Hein. Il y a un gars qui mène la scierie, tout électronique.
C'est ça.
Chacun est en face d'un écran. Ici, la planche au millimètre. Enfin, bon, basta. Mais tout le monde dit, mais un jour, il n'y aura plus de bois. Et un gars m'a dit, eh ben, apparemment, on n'exploiterait que 10% de la forêt française. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai?
Oui, globalement, la production biologique, c'est-à-dire ce que la forêt grossit chaque année, on doit être aux alentours de 90 millions de mètres cubes. C'est ça qu'il faut surtout regarder, 90 millions de mètres cubes. Et grosso modo, on exploite 40 millions, on va dire, de bois, donc on va dire facturé, quoi, commercialement, qui rentre dans les circuits commerciaux. Et puis, il y a plus de 10 millions de bois qui ne sont... c'est l'autoconsommation, hein, les particuliers qui ont des bois, etc. Donc, bois de chauffage notamment. Donc, bon, grosso modo, ça nous fait 50 millions. Donc, on est à 50%, c'est ça qu'il faut retenir, 50% d'utilisation de la... comment dirais-je, la, du fonctionnement biologique des arbres. Non, ce qui est le plus préoccupant, c'est pas tellement ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est surtout le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, donc, met à mal certainement chez vous, notamment sur le sapin, mais il y a d'autres régions, l'épicéa, c'est les sécheresses, c'est les attaques sanitaires qui s'en suivent, notamment le scolyte, c'est aujourd'hui dans les Landes hein, aussi, avec un tout petit ver qui attaque le pin, c'est aussi sur certains feuillus, et puis d'autres menaces tout autant importantes, c'est les incendies, bien entendu, qui peuvent ravager des hectares et des hectares de forêt, et puis les tempêtes. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup, je pense, d'autres causes qui font que notre forêt est plus menacée à l'heure d'aujourd'hui que l'exploitation proprement dite. Enfin bon, c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts, c'est quelque chose qui est écrit. Mais bon, bien sûr, quand on est sur un secteur où on a de l'exploitation, on a l'impression que... Mais il faut regarder d'une manière beaucoup plus générale sur l'ensemble du territoire. Et ça, faut pas tomber dans le piège de regarder qu'autour de son clocher, parce que c'est sûr que peut-être que sur certains endroits, il y a peut-être trop d'exploitation, encore que je pense qu'aujourd'hui, la forêt française, via les coopératives, via donc pour le secteur privé, via l'ONF pour le secteur public, les gens ne font pas n'importe quoi. On n'est pas en déforestation, comme par exemple en Roumanie, il y a quelques années, où là, on coupait plus de bois que la production biologique. Et là, quand on fait ça, on est en déforestation, c'est clair. Mais en France, on n'est absolument pas sur cette dynamique. Voilà, ça c'est sûr.
Oui, alors bien sûr, puisqu'en plus, là, nous, il vient de s'ouvrir, enfin de s'ouvrir, il existait déjà, mais il s'est agrandi. Et il y a eu un article, hein, et donc ça va être 300 000 mètres cubes par an, oui. C'est-à-dire 300 mètres cubes par jour. C'est quand même énorme, hein. Mais bon, c'est pour ça que c'est vrai quand c'est autour de chez nous, on dit waouh, qu'est-ce qui va nous arriver, mais
c'est
non,
ça.
Il faut pas regarder qu'autour de chez nous. Alors j'avais écouté une émission avec les Allemands qui gèrent très bien leurs forêts, par contre, parce que je sais que le gars avait raconté qu'ils avaient de 3,5 milliards de mètres cubes, je crois, d'arbres, enfin je sais plus, mais de toutes les sortes, parce qu'ils s'étaient rendu compte. Qui commençaient à diversifier, qui plantaient pas que du pin, que du sapin, ils mélangeaient tout. Et ils savaient au millimètre hein, exactement ce qu'ils avaient avec maintenant le GPS, tout ça. Alors est-ce que nous.
En France aussi. Hein,
oui, ça commence comme ça.
En France, l'IGN connaît exactement, on connaît les surfaces, on connaît les volumes, ça c'est sûr. Mais il faut se méfier de ces approches un peu théoriques. Parce que, ça reste théorique. Ce qu'il faut regarder, c'est plus en détail, c'est-à-dire ce que les entreprises ont besoin, quel type d'essence, parce que c'est là le problème, en fait. Hein, c'est mettre en adéquation un marché, des transformateurs, et puis la ressource. Donc on prend le problème à l'envers. Et ça, les gens ne le comprennent pas forcément. Hein. Mais il faut bien dire une chose, hier comme aujourd'hui et demain, si on ne transforme pas davantage de matière sur le sol national, c'est des volumes qu'on est obligé d'importer. Et ça, bon, peu de gens le savent non plus, mais c'est pratiquement 2,5 millions, voire un peu plus, de mètres cubes de sillage qui viennent d'Allemagne et des pays nordiques. Donc du coup, notre souveraineté... risque d'être mise à mal si on ne prend pas en considération ce problème-là. Et souvent, ce manque d'informations et de connaissances, notamment via le monde écologiste, ça grince, quoi, parce que les gens ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants de cette approche systémique de... on va dire, du monde rural, forestier, transformation, etc. C'est assez complexe, ce qui fait la beauté aussi et la force de ce milieu, quoi.
Oui, alors, oui, justement, parce que maintenant, il y a quand même des lois qui sont passées. Il y a une obligation de replanter, alors je ne sais plus à quel, je sais plus combien d'hectares, mais le propriétaire est obligé de replanter derrière, hein, maintenant, c'est.
Oui, non, mais je pense que de ce point de vue-là, il y a. Ça fonctionne pas mal. Bon, le seul problème, ce qui est souvent reproché au monde forestier, bah, c'est les coupes rases. Voilà. Bon, coupes rases, il y a coupes rases et coupes rases. Il y a les coupes rases qui sont, bah, comme nous, par exemple, dans le Beaujolais, puis vous certainement aussi chez vous, dans le Douglas, qui correspondent à un type de sylviculture. On a élevé des arbres et l'objectif, c'est d'arriver à un moment donné à récolter et on replante derrière. C'est comme ça que ça marche, mais ça passe mal, c'est mal compris. Et on met, on va dire, on globalise tout. Alors bon, où ça choque, et parfois il faut le comprendre, et il y a d'ailleurs aujourd'hui des gros problèmes juridiques, et il y a des grosses bagarres sur le terrain, c'est lorsque, notamment dans le Massif central, on va faire une coupe rase, par exemple, de hêtres, de feuillus divers, et ça passe mal pour la population, et bon. Peut-être à juste titre, mais et puis avec derrière des replantations résineux. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui passe mal. Mais voilà, c'est un problème de pédagogie. C'est certainement mal expliqué parce que le sujet des coupes rases, il faut vraiment l'aborder sur son aspect technique. Et ça, bon, personnellement, en termes médiatiques, je l'entends pas souvent expliquer.
Oui, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait expliquer surtout, bon, quand on vit dans une région, on arrive à comprendre, à savoir, hein, mais les gens qui sont à Paris ou ailleurs, je pense que quand on leur parle de bois, qu'on coupe du bois, ils sont à 100 000 lieues de savoir ce
C'est
qu'il faut
ça.
faire, hein, voilà. Alors, tout ça nous ramène à Louis quand même,
Oui.
parce que. Mais c'était bien, parce que c'est vrai ce que vous dites, ça a tellement évolué, on ne parle pas des machines maintenant qui vont dans les bois, qui écorcent, qui tout, hein, donc c'est que là, c'est une révolution. Hein. Mais lui, il n'en était pas là. Lui, ce qui comptait, c'est de retrouver sa scierie d'avant la guerre, quoi.
C'est ça. C'est son travail, quoi. Le plaisir, bon, ça, moi j'ai eu une chance énorme, c'est-à-dire que j'étais apprenti, hein, tout gamin, et j'ai connu le monde ancien, on va dire, qui se finissait dans les années 70, à la fin des Trente Glorieuses, en fait, hein. Et j'ai connu tout ce monde ancien qui était en train de péricliter, et véritablement, moi j'ai vu que de partout, des gens passionnés, des gens qui faisaient leur métier vraiment, allez, on va presque le dire, avec amour, quoi, je veux dire, voilà. Bon, donc c'est toutes des choses aujourd'hui qui sont un peu désuètes parce qu'on met en priorité le rendement, la production, etc., etc. Mais à cette époque-là, c'était pas ça. Et quand on revient à l'époque du roman, eh ben voilà, bon, c'est le plaisir, c'est ce que Louis va ressentir. C'est le plaisir de toucher du bois, de sentir sous ses mains les pièces de bois qui rentrent dans la scie, voilà, etc. Le plaisir de faire couper des lames, le plaisir du travail, quoi, voilà. Donc ça, à l'époque, il faut bien qu'on se le dise, mais c'était élevé à un sommet. C'était élevé à un sommet. Et les gens qui maîtrisaient, en l'occurrence Louis, qui maîtrisaient l'art de l'affûtage, parlons-en, des lames de scie, eh ben c'était des gens qui étaient énormément respectés parce qu'on savait qu'ils étaient c'était les maîtres dans leur domaine. Et ça, malheureusement, c'est vrai, vous l'avez évoqué avec le modernisme, bon, ben, tout ça se dilue dans la masse. Et puis maintenant, ben écoutez, disons-le, mais c'est l'IA, notamment dans les grosses, grosses entreprises, qui prend la main surtout, et l'IA, l'intelligence artificielle, qui va décider d'un plan de coupe, qui va décider de quelle manière on va scier un bois, etc., etc. Voilà, donc les choses ont changé. Et ça, bon, on le regrette ou on ne le regrette pas, je ne sais pas moi de le dire. Mais en tout état de cause, à cette époque-là, moi je pense que c'était véritablement un ressenti. un ressenti de très fort chez les gens du bois. Ça, c'est clair, c'est clair.
Oui, alors comme oui, on est avec Maurice Chalaillet pour parler de son livre Une main tendue. Alors vous avez compris qu'on était dans le bois jusqu'au cou là. Alors ce que vous dites, c'est vrai, parce que c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi, je me rappelle la Syrie Gallien, pour pas la nommer, à Craponne. Oui. Eh bien, il y avait une dame qui faisait que ça. Elle affûtait les.
Bien sûr.
Ouais, elle affûtait. Elle faisait que ça. C'était son boulot. Elle affûtait les
oui.
rubans, là, je sais pas comment on appelle ça.
Et oui, c'est ça, oui.
Et voilà, ouais, c'est ça. Et alors, j'avais, moi, à l'époque, j'avais. Ah ben, ça remonte, hein. Mais j'avais un client qui était du côté de Berbzy, là, au milieu des bois, là, il y en a. Hein. Et il me disait, tu sais, mon petit. Lui vivait pratiquement au milieu de ses bois. Hein. Il disait, moi, je coupe toujours mes bois à la lune. Toujours, toujours, toujours. Alors ça, c'est peut-être pas... Il y en a encore qui continuent, mais c'est pas toujours vrai. Hein.
Oui, non, mais vous mettez le doigt sur la réalité du monde rural. Les gens travaillaient beaucoup, ils avaient ce contact avec la matière, et puis, bon, ils gagnaient peut-être pas beaucoup, beaucoup d'argent, mais, bon, les gens vivaient. C'était un autre rythme et puis voilà et je pense que ce roman plante ce décor d'une façon réelle et enfin tout au moins c'était ma volonté hein.
Oui alors donc on va voir tout au long de ce roman bon on va pas dire la fin hein, parce que c'est Louis qui va peut-être s'en sortir. Il a cette main tendue qui va lui être très utile. Donc, ça sera au lecteur de voir comment ça va se dérouler. Mais finalement, ouais. Je pense que pour des lecteurs un peu plus jeunes que moi, disons, même ou des jeunes qui peuvent lire ce roman, ils vont apprendre des choses qu'ils étaient à 100 lieues de se douter. Hein, parce qu'on voit tout ce qui se passe maintenant dans le bois, on avait même, nous, ici, des gens qui sortaient les bois avec les bœufs. Hein, c'était pas...
Bien sûr.
Et nous, on avait un personnage, là, on l'appelait le Zan, tiens, c'était un surnom. Il partait avec ses bœufs, lui, 8 jours. Il couchait avec ses bœufs, et incroyable, hein, c'était... Mais vous dites ça à des cas, ben, là, il dit, mais oh, vous êtes complètement zinzin. Eh ben non, on n'était pas zinzin, c'était comme ça, hein, voilà.
Oui, et puis il faut bien savoir que ce qui est le débat, vous parlez du débardage avec les bœufs, donc on en parle beaucoup dans le roman, c'est que ça a été une réalité, ça, jusqu'aux années pratiquement 70. Ça s'est terminé après 80, mais moi qui exploitais avec mes frères une scierie, on a eu encore jusqu'en 80 des paysans qui amenaient le bois avec des bœufs, des traînes de bœufs, l'hiver sous la neige. C'est pas si vieux que ça, hein. Et sur le Pila, à ma connaissance, il restait encore des attelages, effectivement, avec des paysans qui faisaient ça surtout l'hiver. Hein. Et c'était un métier. C'était un métier. Et tout ça, moi, je l'ai vécu. Et donc, c'est sûr qu'après, c'est beaucoup plus facile de le raconter. Alors, je voudrais aussi rajouter un point important. Il ne faudrait pas qu'on croie que le passage de la guerre et des atrocités, bon, bien entendu, de la grosse blessure, de la gueule cassée sur un personnage, ça a été facile. Non, c'était absolument terrible. Et puis, ce qu'on évoque aussi dans ce roman, c'est tout le problème des gens qui sont revenus, peut-être pas abîmés hein, physiquement, mais qui sont revenus alcooliques. Et qui ont eu une vie de misère pour eux et ce qu'ils ont pu faire endurer à d'autres. Et ça, j'ai tenu à l'aborder parce qu'on en a tellement parlé. Et ça, c'est été aussi un véritable drame et qui nous permet de souligner encore une fois. Bon, c'est vrai, c'est lié à la guerre, tout le monde le sait, à beaucoup d'endroits aujourd'hui sur notre planète. Et je crois que c'est important d'entendre à un moment donné, de comprendre ce que ça peut provoquer sur les gens et tous les problèmes qui s'en suivent. Et ça, véritablement, nous, on l'a vécu, que ce soit après la guerre de 14, après la 14-18, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. c'est des véritables traumatismes qui sont amenés au cœur de nos territoires, au cœur des familles, et dont certainement, encore dans beaucoup de familles, on emporte les stigmates. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde marque et va marquer pour des générations les survivants, on va dire. Ça, c'est quand même, encore, j'allais dire, en écrivant ce roman, très, très actuel, quoi. Très, très actuel.
Ben oui, parce que comme vous dites, hein, c'est vrai qu'on voit, alors bien sûr, on voit des images sans arrêt, on casse des maisons, on casse des ci, on casse des ça, mais ce qu'on oublie beaucoup, ce que vous disiez, c'est le traumatisme. Traumatisme des gens qui vivent ça. Nous, on est à des lieux là, de là, mais on n'imagine pas. Mais quand les familles là, qui sont confrontées, enfin nous, on a quelques Ukrainiens qui sont chez nous, et qui ils ont encore leur famille qui sont là-bas, hein, qui se battent. D'ailleurs, puisqu'on est dans la période, quand on enregistre l'émission de Roland-Garros, il y a eu deux Ukrainiennes qui ont joué en huitième de finale, et elles ont dédié leur match à tous les Ukrainiens, et je peux vous dire que le Roland-Garros, je crois que c'était Philippe Châtrier, ils ont dû applaudir pendant 5 minutes, hein, c'était... parce qu'elles ont, elles, on les sentait complètement bien émues, sûr. Elles ont leur famille, il y en a, je crois imprégné. Que c'est, Kostiou, je ne sais pas comment elle s'appelle, et qui disait que la veille de son 8e ou 16e de finale, elle a appris qu'une bombe était tombée à 100 mètres de chez ses parents, quoi, je veux dire, nous on n'imagine pas, hein, mais c'est terrible, voilà, bon, c'est comme ça,
et
les
ça,
hommes,
alors, ouais. Oui, c'est peut-être aussi l'occasion de redire aussi les bombardements de Saint-Étienne, hein, qui ont d'ailleurs, sure. Je crois qu'ils ont, il y a eu les commémorations la semaine dernière, qui ont fait aussi des centaines de morts. Voilà, donc on a connu ça. Bon, prions le Seigneur que nous ne le reconnaissions pas. Mais voilà, aujourd'hui le monde est en train de ça. Et donc, je pense qu'à travers un roman, c'est très intéressant de regarder ça de plus près, voilà, de faire réfléchir.
Oui, puis je crois qu'il faut résumer. Hein. Si, pour résumer, je crois qu'il n'y a qu'une chose, bien sûr, c'est l'argent. Hein, je veux dire, pourquoi on se bat ? Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des ressources, il y a le pétrole, il y a les terres rares, je ne sais pas quoi. Mais c'est tout est question d'argent, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais enfin bon, on ne va pas refaire le monde, on n'a pas le temps.
Hein,
donc aujourd'hui, avec Maurice Chalaillet, une main tendue. Donc Louis, vous verrez comment ça finit. Mais vous voyez, vous apprendrez beaucoup de choses sur ce qui se passait dans le temps, hein, comment on travaillait le bois, tout ça. Et ça, je crois que c'est bien. Ça fait partie de la mémoire, hein, du patrimoine de notre pays, de nos régions, surtout les régions boisées. Donc c'est très intéressant. Alors Maurice, c'est toujours ma dernière question, bien sûr. Je pense, comme vous écrivez beaucoup de bouquins, il y en a un ou deux sous le coude, là ?
Oui, oui, donc il y a une histoire qui est en train de se construire, et là, bon, on change complètement d'univers, puisque nous sommes dans les années, fin des années 60, 68, et tout ce qui va tourner autour du monde ouvrier, du syndicalisme, des luttes sociales, et puis d'un quelque chose aussi que j'ai découvert que peu de gens connaissent, mais d'un mouvement, on va dire, un mouvement de jeunes qui partit essentiellement de Paris, qui dans les années 60, voire 60 et 70, a voulu faire en sorte de créer un petit peu des maisons dans le Jura, dans le Midi, dans les Alpes, pour accueillir un peu le monde ouvrier, le monde étudiant, pour leur faciliter l'accès aux loisirs. Et ça, tout en sachant que c'est parti, encore une fois, d'actions volontaires, beaucoup tournées aussi sur l'humanisme. Et ça m'a paru intéressant de remettre ça à l'heure actuelle.
Au goût du jour.
Oui. Et puis, au goût du jour, voilà, au goût du jour, pour montrer que il y a des gens qui ont été capables de se mobiliser pour porter des projets collectifs. Et ça, c'est quand même bien aussi de nous le rappeler. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, Maurice, merci d'avoir été avec nous. C'était très, très intéressant. Et je pense que les lecteurs qui vont... votre livre est sorti quand, là? Je ne vous l'ai même pas demandé, mais il n'y a pas très longtemps.
Alors, hein. Le livre est sorti, je crois, au mois de mars.
Ouais, c'est ça.
C'est peut-être l'occasion aussi de rappeler qu'il vient après, donc, Un Nouveau Souffle, hein, qui se passait pas loin de chez vous, puisque Le Nouveau Souffle se passait... aux Estables, hein, dans les,
ah bah oui.
Au moment du confinement, hein, bien sûr,
ouais,
un roman
ah bah
important dans,
ouais.
dans la progression, et qui nous a parlé un petit peu de comment une famille a passé le moment difficile de 2020-21 à travers ce retour à la campagne et notamment aux Estables. Voilà.
Très bien, mais écoutez, merci d'avoir été avec nous. Puis bien sûr, vous avez un titre déjà pour le prochain roman, non? Pas encore?
Non, pas du non. tout. Non, il est en cours d'écriture. Donc
d'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup
voilà.
d'avoir été avec nous. Et puis je pense que c'est un roman qui va bien marcher. Parce que c'est toujours bien de se rappeler un petit peu. Il faut de la mémoire dans la vie.
Oui.
Je sais que souvent, on dit qu'il faut se rappeler d'où on vient. Et il y en a qui oublient parfois.
Tout à fait.
C'est dommage. Voilà.
D'accord.
Merci.
Voilà, écoutez, merci.
Au revoir, Maurice, à bientôt.
Et, oui, ouais. Bonne journée à tous et merci. Au plaisir. Au revoir.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Il y a des oiseaux, des petits, des gros, mais y a pas de perroquets. Dans d'autres pays, y en a des jolis qui se parlent sans arrêt. Il y a des oiseaux, des petits, des gros, mais y a pas de perroquets. Dans d'autres pays, y en a des jolis qui se parlent sans arrêt. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au vent de la forêt, tu verras mes jolis coins. Y'a des écureuils cachés dans les feuilles, mais y'a pas de koala. Dans les pays chauds, y'en a des très beaux, j'en ai jamais vu par là. Y'a des écureuils cachés dans les feuilles, mais y'a pas de koala. Dans les pays chauds, y'en a des très beaux, j'en ai jamais vu par là. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Il y a des serpents, des petits, des grands, mais j'ai pas vu de boa. Dans d'autres pays, y en a des jolis qui s'enroulent autour de toi. Il y a des serpents, des petits, des grands, mais j'ai pas vu de boa. Dans d'autres pays, y en a des jolis qui s'enroulent autour de toi. Je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins.
Et oui, on a parlé beaucoup de bois aujourd'hui, de cette guerre de 14-18 avec les gueules cassées. C'était le roman de Maurice Chalaillet, Une main tendue. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute et une bonne journée. Merci de votre fidélité.
He did, and he keeps it out of sight.